Virage Marseille avec Oco, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil. Santé, prévoyance, auto, habitation.
Bonjour à tous, bienvenue dans Virage Marseille. On est de retour sur le plateau de BFM Marseille-Provence après deux émissions en extérieur du côté de Fos et du côté de l'OM Campus avec l'interview exclusive de Corinne Diacre que vous avez suivi ce mercredi. Et avant de commencer cette émission, on n'a pas eu le temps d'en parler cette semaine. On voulait avoir une pensée pour les victimes de la catastrophe de Furiani. C'était le 5 mai. Toutes nos pensées, celles de la rédaction, vont évidemment aux familles des victimes de ce drame du football français. Allez, parenthèse refermée, on va parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille avec vous messieurs et Alain Soultagnan. Bonsoir, ancien kiné de l'Olympique de Marseille.
Bonsoir.
Ancien kiné de l'Olympique de Marseille, merci beaucoup d'être avec nous en face de toi. Ossine, supporter de l'Olympique de Marseille, ça va ?
Bonsoir, ça va très bien.
Alors, on est jeudi, messieurs, l'Olympique de Marseille affronte le Havre ce dimanche du côté du stade Océane. Est-ce qu'on en attend quelque chose encore de cet Olympique de Marseille-là ? Est-ce que ce match face au Havre, match censé facile, mais j'ai l'impression que ça fait trois semaines que je dis que les matchs qui arrivent sont censés être faciles. Est-ce que vous attendez un sursaut de ces Marseillais ?
Moi, personnellement, je ne pense pas. Et j'en veux énormément aux joueurs. Parce qu'ils n'ont pas fait la distinction entre leur côté professionnel et tout ce qui se passe autour. Parce que malgré tout, c'est des professionnels. Il ne faut pas tout mélanger. Même actuellement, apparemment, ça se passe mal avec l'entraîneur. Ce n'est pas parce qu'il y a des couacs avec l'entraîneur que sur le terrain, il faut lâcher. C'est un maillot qui porte, qui a un prestige. Il y a des supporters derrière, il y a une économie derrière. Donc moi, je leur en veux énormément. Des problèmes, il y en a toujours eu dans des clubs. Et on fait la part des choses. Il y a même des joueurs qui ne se parlaient pas, qui jouaient sur le terrain et qui ont fait des belles prestations. J'ai pas d'exemple en tête, mais notamment...
Moi, j'en ai un, Thauvin et Payet, voilà, hein, récemment.
J'ai donné l'exemple de la Coupe du Monde 2006, où quand Zidane fait son retour avec les anciens, avec Domenech, ça se passait très mal. Ils sont quand même arrivés en finale. Mm-hmm. Donc bon, après, c'est notre calibre, mais c'est des gens qui ont fait la part des choses et qui sont restés professionnels. Et moi, j'en veux énormément aux joueurs de l'Olympique de Marseille.
Alors justement, ces joueurs, ils sont punis depuis le début de la semaine. Depuis lundi soir, ils dorment à la commanderie. Donc ça fait 5 jours et quasiment 5 nuits après ce soir. Alain, une punition qui ne sert vraiment pas à grand-chose, à part dire, voilà, vous voulez jouer au plus bête avec la direction, on va y aller au bras de fer avec ces joueurs-là.
Ils ont tous un contrat de travail. À partir du moment où il y a un contrat de travail, vous respectez ce contrat. Ce contrat, il demande quoi ? Il demande de donner le meilleur de soi-même pour son employeur. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'amour du club. Parce que je pense qu'il n'y en a aucun qui aime le club. Aucun de ces joueurs. Ce sont des mercenaires. Voilà l'impression que j'ai.
Est-ce que tu en as vécu, toi, Alain, des périodes comme ça ? On sait que tu as été très longtemps le kiné de l'OM, mais des mises au vert, des punitions, des stages pour essayer de créer une cohésion. Est-ce qu'on en a déjà vécu à l'Olympique de Marseille, ce genre d'événement ?
Des stages, j'en ai vécu. Or, les stages de reprise au mois de juillet ou après Noël, il y a eu des stages. À l'époque de Bernard Tapie, souvent, on apprenait le jour même que le soir, on partait en stage à Digne pour préparer pendant 3 jours le match contre Paris. Pourquoi ? Parce qu'on avait fait un mauvais résultat la veille ou un match nul ou quelque chose comme ça. Enfin, le patron n'était pas satisfait. Il a dit, vous allez partir 3 jours au vert, vous refaire la cerise à Digne. Vous respirerez le bon air. Et ça a toujours été, pour moi, quelque chose de bénéfique. Maintenant, c'est sûr que ce qui se passe actuellement, ça peut être considéré comme une punition. Mmh. Vous voulez que je vous dise ? Je m'en fous. Je m'en fous qu'il soit puni. Parce qu'il ne respecte pas le club, il ne respecte pas le maillot, il ne respecte pas les couleurs. Quand on vient à Marseille, on doit savoir où on met les pieds. On doit savoir où on met les pieds. On ne vient pas pour voir le soleil alors qu'on vient de Pétaouchnok. Non. On doit respecter un contrat de travail où on doit se vider les tripes pour avoir le bon salaire qu'on a. Voilà.
Pour mériter ce salaire.
Pour mériter le salaire qui est sur le contrat. Et c'est pas rien. Donc, à partir du moment où on voit ce qu'on voit, pour moi, c'est faute professionnelle.
Ouais, aussi, alors, d'accord. Qu'on ne me parle mérité.
Pas, qu'on ne me parle, excuse-moi. Tout, non, non, mais je vais revenir sur ce que tu as dit par rapport à l'entraîneur ou quoi. Ils en veulent à l'entraîneur, mais ils en veulent à tout le monde. Il y en a toujours qui en voulaient à De Zerbi. On peut reprocher à Habib Bey quelques mauvais choix, mais est-ce que De Zerbi a fait des bons choix, lui aussi? On ne sait pas. On a pris des joueurs qui étaient blessés lourdement. On les a achetés. Ils sont venus à Marseille. On a attendu 2 mois avant qu'ils reprennent le cycle des matchs. 2 mois de perdu. Vous vous rendez compte? Non. Il y a trop de choses à dire. C'est très compliqué. C'est très compliqué.
Aussi,
sur le dernier match, l'envie, zéro. Les courses, zéro. Les courses à haute intensité, zéro. La technique, zéro. Les duels gagnés, zéro.
Alors voilà, je te redonne la parole. Je te redonne la parole d'ici quelques instants aussi. J'aimerais t'entendre justement sur cette punition. Toi, le supporter, comment tu l'aperçois? Le fait que la direction ait décidé de pas d'emprisonner à la commanderie, mais c'est presque ça, les joueurs, pendant une semaine entière, sans leur dire si demain ils allaient pouvoir être libérés d'ailleurs.
Moi, ce qui me vient à l'esprit d'abord, la première question, c'est est-ce que c'est bénéfique? Parce que quand on fait une action, il faut savoir le pourquoi du comment et ce que ça va apporter. Pour moi, je ne sais pas si ça va apporter un plus, vu le climat qu'il y a actuellement. Faire cette punition, parce qu'on appelle ça une punition, cette mise au vert, alors qu'habituellement, quand on disait une mise au vert, c'était plus pour préparer des matchs importants, comme le disait. Moi, quand j'étais minot, que je regardais l'époque de tapis, c'est vrai, c'était une mise au vert, même au domaine de Tournon, si je dis pas de bêtises.
Mais on en a fait au domaine de Tournon, voilà. Digne.
Et c'était pour préparer des matchs importants, tout ça. Et là, c'est grave quand même, c'est qu'on remet en question la mentalité des joueurs, l'envie des joueurs. On est obligé de faire ça alors que c'est des gens matures pour la plupart. Il y a des gens qui sont pères de famille, il y a des gens qui sont responsables. Donc, mais moi, est-ce que ça va être positif ou est-ce que ça va amplifier le problème? Et au Havre, on va avoir une équipe qui va rien faire, quoi. C'est pour ça, il faut se poser la question. Apparemment, même ce matin, si j'ai lu les médias, Habib Bey a été obligé d'arrêter l'entraînement en tirant dans le ballon par rapport à Greenwood, son comportement. Donc s'il se met tous les joueurs à dos, s'ils ils se mettent dans cette situation, ça va plus compliquer les choses que... Est-ce que je veux dire, ça apporte rien de positif?
Donc là, il n'y a rien de positif dans cette mise en
place. Il y a un malaise qui est
profond.
Hormis
le fait de dire, la direction, un peu, elle se venge finalement de ce qui arrive en ce moment sur le terrain en disant, vous ne faites pas le taf, il reste 2 semaines, on va avoir 2 semaines à vous faire vivre l'enfer finalement, et vous partirez peut-être à la fin de la saison, mais au moins vous n'aurez pas vu votre famille pendant 2 semaines, et ça sera comme ça parce que vous êtes payé, et Alain, tu le disais, très grassement. On va écouter justement, messieurs, Eric Dimeco à ce sujet, ancien champion d'Europe 1993. Pour lui, cette saison, cette fin de saison, elle est tout simplement ridicule, écoutez.
Il fallait essayer de finir la saison le mieux possible en brossant les mecs dans le sens du poil le plus possible parce que si tu voulais être sévère ou si tu voulais taper, il fallait le faire bien avant. Et là, comme les mecs sont plus là, la punition, tu la prends encore moins bien, quoi. Voilà, tu dis, ah ouais, vous voulez jouer à ça? Tu as des mecs qui disent, écoute, moi je m'en fous complet. Voilà, donc moi je pense que je sais pas si on verra de l'effet. Purement, on n'y croit plus. Tout le monde nous fait peur. Nantes nous faisait peur et on a eu raison. Le Havre nous fait peur.
Tout le monde se moque de vous, des questions moyennes et tout.
Tout le monde se moque de nous. Donc voilà, et vite que ça finisse. Il reste 10 jours. Écoute, je compte les jours. Voilà.
Et c'est vrai que ça aussi, on peut se poser la question. Au début de la saison, on n'a pas senti la direction très ferme avec les joueurs. Et d'un coup, il y a eu ce revirement de situation. Benatia, après la défaite face à Lorient, est venu en conférence de presse et a dit « Allez, les 4 prochaines semaines, on va les passer ensemble, on va faire payer aux joueurs leurs prestations sur le terrain. » Et c'est vrai que les joueurs, du coup, aussi peuvent se demander pourquoi, d'un coup, un revirement de situation alors qu'on perd un match et que ça aurait pu être une défaite, j'allais dire pas anodine, mais qui aurait pu avoir moins de conséquences, en tout cas, sur la fin de saison.
Ouais, je ne suis pas trop d'accord, parce que c'était en fin de saison, c'est des péripéties qu'on fait que on est arrivé à cet événement de Benatia. Je pense qu'il a craqué, et comme j'ai dit, je pense qu'il avait ce projet à cœur, et ça le tenait à cœur d'avoir cette équipe, il a mis toute son énergie dedans. Pour moi, il a fait du bon travail, mais malheureusement, les joueurs n'ont pas respecté leur part de contrat. Lui, il a respecté la sienne, il a tout donné pour le club. Et après, ce qui est dommage, c'est que comment voulez-vous qu'on avance en sachant que l'entraîneur, on ne sait pas s'il sera lui la saison prochaine, le climat est mauvais, Benatia ne sera pas là l'année prochaine, donc il n'a aucune légitimité quand il parle. Le joueur va lui dire, tu me parles, mais t'es pas là l'an prochain, t'as rien à me dire. On est dans un flou total. Et moi, ce qui est dommage en tant que supporter, c'est qui va en payer les pots cassés? C'est nous, parce que certains joueurs vont se retrouver dans notre club à jouer peut-être des matchs de Coupe d'Europe et des matchs importants dans des grosses équipes. Et nous, l'année prochaine, on va se retrouver avec l'OM en championnat, avec une petite équipe, je pense, parce que vu les finances et vu ce qui nous attend, sans Coupe d'Europe, c'est nous qui en payons le prix fort, alors que nous sommes les premiers devant, quoi.
Et ça ferait la deuxième saison en trois exercices que l'OM finirait hors Coupe d'Europe. Allez messieurs, on arrive à la fin de cette première partie de Virage Marseille. Vous restez bien sûr avec nous. Dans cette deuxième partie, on parlera du cas Mason Greenwood qui lâche complètement l'Olympique de Marseille en cette fin de saison. À tout de suite.
Virage Marseille avec Oco, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil, santé, prévoyance, auto, habitation.
On est de retour sur le plateau de Virage Marseille, toujours avec Ossine et toujours avec Alain Soultagnan. Messieurs, on va s'intéresser au cas de Mason Greenwood. Depuis quelques matchs, il n'est que l'ombre de lui-même, l'attaquant anglais qui a porté l'Olympique de Marseille toute la saison quasiment. Regardez à ses stats, 15 buts, 1... alors elle va s'afficher tranquillement, 1 lors des 10 derniers matchs, 6 passes D en 2025-2026, 2 passes D seulement lors des 10 derniers matchs, voilà, des stats qui dégringolent ces derniers matchs. Est-ce qu'on lui en veut à Mason Greenwood? Est-ce que tu lui en veux à Ossine?
Oui et non, oui parce qu'il est en train de quitter le navire. Et non, parce qu'il a fait une belle saison. Et après, c'est plus avec l'entraîneur. C'est pour ça que le rôle de l'entraîneur est important. Ce n'est pas que mettre un dispositif. C'est aussi, souvent, il y a des joueurs qui cherchent ce côté affectif avec l'entraîneur. C'est pour ça qu'il faut s'adapter à chaque joueur. Et je pense que Mason Greenwood, c'est quelqu'un qui est à part. En plus, c'était notre meilleur joueur. Peut-être qu'il fallait le prendre autrement. Pas lui donner des passes droits, je ne dis pas ça. Mais peut-être qu'il fallait l'aborder d'une autre manière. Et là, je pense qu'il s'est mis à dos. Je pense que, honnêtement, même au Havre, il ne faut pas le faire jouer. Vu ce qui s'est passé ce matin d'après les médias, moi, je ne le ferai pas jouer.
Mason Greenwood qui est déconnecté du staff, de son équipe, notamment selon les informations de nos confrères. Alain, toi, tu en as connu des grandes stars à l'Olympique de Marseille, des joueurs qui étaient sans pareille mesure. Mason Greenwood, tu comprends ce qui lui arrive là en ce moment, ce qui se passe avec lui, comment le club le traite depuis ses derniers matchs?
Je vais donner mon sentiment personnel. 70 à 80% des matchs ont été gagnés grâce à lui. On enlève Greenwood de cette saison. D'accord? Vous ne croyez pas qu'on serait à la place de Nice aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses?
Non, c'est vrai, je suis d'accord.
On jouerait le maintien. Voilà. À partir de ce moment-là, ce garçon qui est pétri de classe, qui nous a fait gagner des matchs, se rend compte de quoi? Que le club dégringole, part à la dérive. Il se dit, mais je vais me lever le cul, pourquoi? Pour jouer avec des ânes? Voilà, je pense que Greenwood a un problème mental aujourd'hui, où oui, je pense qu'il a lâché, parce qu'il en a ras-le-bol de porter le club à bout de bras.
Mais c'est aussi un peu son statut qui fait ça. On sait qu'il y a des équipes, hormis les grandes équipes des championnats européens, où il y a un joueur qui porte un petit peu l'équipe. Et lui, il va partir sûrement dans un grand club à la fin de la saison parce que c'était ce joueur-là. Et il faut aussi que dans les moments difficiles, il réponde présent et qu'il porte l'équipe aussi dans les moments difficiles, pas que dans les bons moments.
Mais quand il fait le travail tout seul, il en a ras-le-bol, le gars. Il est fatigué, il est usé, là. Il est usé. Le problème, c'est qu'il joue avec des garçons qui n'ont pas la qualité pour le faire briller encore plus. Il est obligé de jouer tout seul. Il joue tout seul. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, comme les autres lâchent, ben, il lâche aussi. Voilà.
Greenwood,
alors, je l'excuse pas. Je donne une raison. Je n'excuse pas. Je n'excuse personne. Voilà. Tout le monde est à mettre au pilori.
Oui, Greenwood, qui, on le rappelle, d'ailleurs, était arrivé un petit peu dans un contexte difficile. L'OM avait fait le pari de le prendre avec ses soucis personnels. Il arrivait d'Espagne. Est-ce qu'on n'est pas en train de tout gâcher finalement, cette histoire avec, avec l'Olympique de Marseille, lui qui a brillé la saison dernière, qui a brillé cette saison, en tout cas les trois quarts de la saison. Est-ce que ces 10 derniers matchs ne sont pas en train de gâcher toute l'histoire qui aurait pu se créer avec Mason Greenwood et les supporters?
Moi, je l'en veux un peu parce qu'honnêtement, il tient l'équipe à lui tout seul. Et certes, il a ses problèmes peut-être avec le coach ou avec la direction, mais après, il faut faire la part des choses. C'est des professionnels. Quand il est sur le terrain, on est là pour gagner. Moi, je suis un sportif. Quand je joue, je suis là pour gagner. Après, c'est vrai que le mental, il est pour beaucoup de choses. Et honnêtement, ça me peine parce qu'il y a des joueurs, il y a eu des cas de figure comme ça. Je me rappelle à l'époque, je crois que c'était Lassana Diarra qui avait même dit, il s'était moqué de certains joueurs de l'OM, qui était au-dessus du cran, qui était un cran au-dessus plutôt, excusez-moi. Et il a toujours mouillé le maillot. Pourtant, c'était un Parisien, il était là, il faisait de belles prestations. Il faut faire la part des choses quand même. Il y a des supporters derrière, il y a un enjeu économique pour le club. Mais moi, j'en veux à toute cette politique de mettre des gens un peu de l'extérieur. C'est pour ça que je suis un partisan de cette souche marseillaise au sein du club, parce que qui travaille à tous les postes, hein, je parle à la direction, dans le staff, au moins quand on a ces gens-là, ils ont la pension de l'OM, ils savent ce que ça représente Marseille, ils peuvent véhiculer ce message aussi aux joueurs, et malheureusement on prend beaucoup de gens de l'extérieur qui n'ont pas cette philosophie, qui n'ont pas cette mentalité, et je pense qu'il va falloir peut-être changer cette politique et revoir plein de choses.
Tu parlais de philosophie, Alain, j'aimerais te poser la question. Est-ce que le fait qu'il n'y ait même pas vraiment de leader, de joueur de caractère dans le vestiaire, ça peut expliquer aussi le comportement de Mason Greenwood? Je m'explique. Eric Dimeco disait souvent, en 93 par exemple, ou en 92 juste avant, avec Jean-Pierre Papin, eh bien, quand il arrivait en retard à l'entraînement, on ne le blâmait pas forcément, on n'en faisait pas tout des caisses, parce qu'il tirait l'équipe vers le haut sur le terrain, il nous faisait gagner des matchs, et nous, ce qu'on voulait, nous leaders, c'est gagner des matchs. Oui, et finalement, il y avait une osmose et une bonne intelligence, en tout cas.
Il faisait gagner des matchs, Jean-Pierre, c'est sûr. C'est sûr. Mais on va en revenir aux couleurs. On a pris des joueurs allemands. D'accord ? Rien à voir avec l'OM. Klaus Allofs, Karl-Heinz Forster, Rudi Völler, pour ne citer qu'eux. Aucun n'a jamais déçu. Les mecs, ils se mettaient chiffon sur le terrain pour défendre les couleurs.
Parce que c'était des leaders aussi, voilà. Les caractères.
C'est une mentalité aussi, je pense.
À Marseille, c'est une entité, c'est énorme. D'accord ? Le poids du maillot, il est lourd. Il faut savoir qui on prend quand on prend les joueurs. Il faut savoir qui on prend. Des joueurs de caractère. Des battants qui ne lâchent jamais rien. Et c'était le cas. C'était le cas. Quand Basile a voulu sortir à la mi-temps de la finale, gagner contre Milan à Munich, Basile voulait sortir. Rudi Völler est arrivé à côté, il a dit « You stay, tu restes, t'as compris ? Tu restes. » Vous connaissez la suite. Il a marqué « On a été champion d'Europe. » Voilà. Voilà des joueurs de caractère. Klaus Allofs a fait beaucoup progresser Jean-Pierre Papin. Mais il y avait une équipe, il y avait un groupe, il y avait des Marcel Desailly, il y avait des Basile Boli, il y avait des Eric Dimeco. C'était des guerriers. Et tous n'étaient pas forcément amis dans la vie. Mais sur le terrain, c'était des guerriers, les gars. C'était des guerriers. Aujourd'hui, qui est guerrier dans cette équipe?
Mais comment on le sait, ça, alors, quand on recrute des joueurs? Est-ce qu'il faut vraiment cibler? Il faut vraiment cibler ça, en tout cas, pour le prochain mercato, cibler des joueurs peut-être un peu moins prestigieux, peut-être avec un peu moins de ballons, peut-être avec un peu moins de technique, oui, mais qui ont une mentalité de guerrier, comme tu le dis.
Tout à fait. On se renseigne. Dans quel état d'esprit est le joueur? Quelle est son hygiène de vie? Comment vit-il?
Voilà. Parce que sur le papier, je m'explique, hein, Pierre-Émile Højbjerg, c'est un joueur qui est capitaine quasiment dans toutes les équipes où il est passé, capitaine de la sélection nationale. On a des Facundo Medina qui est venu parce que c'est un Argentin avec de la grinta, soi-disant. Eh ben, on voit ce que ça donne sur le terrain. Quand il y a un peu la tempête, ben, il tire sur ses coéquipiers. Finalement, on n'a pas vraiment de leader,
non,
alors que c'était la réputation de ces joueurs-là avant qu'ils arrivent à l'OM.
Il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'aboyeur. Je me souviens de Bernard Pardoux à l'époque. Vous étiez encore jeune. Bernard Pardoux, c'est ce qu'on appelle un aboyeur au milieu du terrain. Il était là pour secouer les troupes. Voilà. On n'en a pas.
C'est ce qui manque à Mason Greenwood, finalement, aussi, quelqu'un qui le secoue aussi de temps en temps sur le terrain.
Après, c'est pas un patron.
Après, chaque joueur a des caractéristiques différentes. Et Greenwood, je ne pense pas que ça soit plus son rôle.
Non, un joueur sur le terrain, oui, qui secoue Greenwood.
Voilà, peut-être qu'il manque un joueur de ce calibre-là. On en avait parlé dans plusieurs émissions. On pensait que Pierre Hollberg avait les capacités, les caractéristiques de ce joueur-là. Mais là, pour moi, il a déçu, il a échoué. Je pensais qu'il avait tout pour être le capitaine et être le leader de cette équipe. Mais on voit que quand ça va mal, honnêtement, il est abonné aux absents, quoi.
Allez messieurs, on arrive à la fin de cette émission. On va vous montrer le classement de cette Ligue 1 avant cette 33e journée. L'OM est actuellement 7e derrière Monaco, Rennes, Lille et l'Olympique Lyonnais. À quelle place, quelle position vous voyez finir cet Olympique de Marseille-là? Est-ce que l'OM jouera une Coupe d'Europe, selon vous, la saison prochaine?
Si tout va bien, 6-7e. Voilà, si
donc
tout va bien.
On restera dans ce cas-là à la place où on est actuellement.
Oui.
Aucine.
Ou pire.
On ne peut pas descendre plus bas. Ben voilà. Quoi qu'il arrive, on sera minimum 7e.
Voilà. Et on va jouer les barrages, encore une fois.
Moi, je pense qu'on sera 7e.
Tu ne nous vois pas aller gagner là, les deux derniers matchs et remonter.
Cette punition, je pense quoi, ça va être un couac. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer les petites équipes du bas de tableau qui ont la rage pour garder la place en Ligue 1. Et après, Rennes, vu ce qu'ils ont fait depuis que Bailly est parti, je ne pense pas qu'ils vont venir pour laisser gagner l'OM. Ça va être très compliqué. Après, lueur d'espoir, là, c'est le supporter qui parle. Peut-être que ça va réveiller leur orgueil au Havre. Il y aura peut-être une victoire catastrophique dans le jeu, mais ce n'est pas grave, on prend. Et après, contre Rennes, malheureusement, je pense que le public ne sera pas là pour supporter l'Olympique de Marseille. Et je pense que ça va nous poser un gros fardeau. Et je ne vois pas la victoire aussi. Je ne sais pas, on verra.
Très pessimiste sur ce plateau. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été dans Virage Marseille.
Alain. Ça joue au ballon, hein, les petites équipes.
Oui, ça joue, attention, hein. Je ne dis pas le contraire.
Attention. Ah oui, ça joue. Et ceux-là, ils n'ont plus rien à perdre, les Havrais, en tout cas, dans cette fin de saison. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Romain Piette à la réalisation de cette émission. Je rappelle qu'elle est disponible en podcast. Si vous voulez la réécouter chez vous, à la maison ou dans votre voiture, bonne soirée à tous sur les antennes de BFM Marseille, BFM Toulon et BFM d'ici.
C'était Virage Marseille avec Coco, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil, santé, prévoyance, auto, habitation.